Et à cette heure, que vois-je ? Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'un veut empêcher toute autonomie kurde en Syrie, l'autre veut continuer à renforcer le pouvoir de Bachar el-Assad. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine se rencontrent aujourd'hui à Moscou pour parler de l'avenir d'un pays déchiré par près de 8 années de guerre, la Syrie désertée bientôt par les forces américaines.
Christophe Castaner a tenté hier devant les députés de déminer les mesures les plus controversées de la proposition de loi anti-casseurs.
Le ministre de l'Intérieur assure que ce texte n'est pas une loi anti-gilets jaunes, que tous les manifestants ne seront pas fichés dans la durée, mais des députés, notamment de la majorité en doute, vous l'entendrez. À la une encore, des couches pour bébés potentiellement toxiques, c'est la conclusion d'une enquête de l'Agence de sécurité sanitaire en France, première étude de ce type dans le monde.
Et puis la question du jour, Catherine, gilets jaunes, pourquoi les féministes sont-elles invisibles dans cette lutte sociale ? Eh bien, on posera la question à l'historienne Michèle Rio-Sarcey.
En Syrie, la guerre est loin d'être finie. Même si les forces loyales au régime de Damas ont multiplié les victoires contre les rebelles et les djihadistes, contrôlant désormais les 2/3 de la Syrie. Hier, un attentat à la voiture piégée a fait 1 mort et 14 blessés à Latakié, dans le fief du clan Assad sur la Méditerranée. Latakié est relativement épargné par le conflit qui déchire la Syrie depuis 2011 et qui a fait plus de 360 000 morts. L'attentat d'hier n'a pas été revendiqué. Correspondance à Beyrouth de Laure Stéphan.
Sur les images diffusées par l'agence de presse officielle Sana, des véhicules brûlent et des ambulances s'affairent pour transporter les blessés au milieu d'une foule de badauds. C'est la scène de l'explosion qui s'est produite hier sur une place fréquentée de la ville portuaire de Latakié. Les médias d'État syriens affirment qu'une deuxième bombe a été désamorcée au même endroit. C'est la seconde fois en 2 jours que des zones loyalistes sont touchées par des explosions. Dimanche, un attentat avait eu lieu près d'un checkpoint militaire à l'entrée sud de Damas, faisant des blessés. L'attaque était la première du genre depuis que les troupes pro-régime ont repris le contrôle de Damas et de ses environs en mai dernier. Latakié, lieu de l'explosion d'hier, est toujours resté sous contrôle gouvernemental depuis le soulèvement de 2011 qui a basculé dans la guerre. C'est une ville mixte qui compte une importante communauté alaouite, celle à laquelle appartient Bachar el-Assad. De nombreux déplacés originaires d'Alep y avaient trouvé refuge dans les années passées, alors que la ville a été relativement préservée par la guerre. Le dernier attentat dans la zone remonte à il y a plus d'un an, mais la région est exposée aux tirs des groupes anti-Assad présent dans la province voisine d'Idlib, l'un des derniers territoires échappant au contrôle du pouvoir.
1 mort et 14 blessés, je le rappelle hier, dans un attentat à Latakié dans le nord-ouest de la Syrie. Toujours au nord du pays, mais un peu plus à l'est, dans la région de Minbej ou d'Asakié, la Turquie veut en finir avec la présence kurde tout près de sa frontière. Les Kurdes alliés à Washington dans la lutte contre le groupe État islamique, les Kurdes considérés comme des terroristes par Ankara. Leur présence et la guerre plus généralement en Syrie seront au cœur d'une rencontre aujourd'hui à Moscou entre Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, 1 mois après l'annonce par Donald Trump du retrait à venir des troupes américaines de Syrie. La Turquie, qui soutient certains rebelles, veut peser encore plus dans la région et a, semble-t-il, réussi à convaincre les États-Unis de laisser l'armée turque gérer une zone de sécurité au nord-est de la Syrie. Mais la partie n'est pas gagnée d'avance avec le Kremlin, allié du régime de Bachar el-Assad. Les précisions à Moscou de Claude Bruyot.
Le ministère russe des Affaires étrangères et le Kremlin se relaient régulièrement pour assurer que l'armée de leur allié Bachar el-Assad a toute vocation à s'installer dans le nord-est de la Syrie, une fois bien sûr les soldats américains rentrés au pays. Sergueï Lavrov et Vladimir Poutine ne veulent pas entendre parler, en revanche pour l'instant, d'une nouvelle zone démilitarisée administrée par l'armée turque. Le Kremlin assure que l'expérience de la région d'Idleb n'a pas été finalement une réussite sur le plan militaire. À l'automne dernier, Erdogan avait défendu cette option pour éviter effectivement une offensive syrienne et surtout une catastrophe humanitaire. Mais la Russie considère que les attaques, même sporadiques, des milices pro-turques depuis cette période n'incitent pas à renouveler l'opération au nord-est cette fois. A l'inverse, Moscou n'est pas loin de défendre l'idée d'un protectorat des Kurdes par le régime de Damas, à charge cette fois pour l'armée syrienne, soutenue par la Russie, de faire baisser les tensions près des frontières avec la Turquie. Il n'est pas certain, en revanche, que Recep Erdogan soit disposé à repartir de Moscou avec cette option. lui qui considère les milices kurdes comme une menace terroriste pour son pays.
7h05 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Un enfant emportera jusqu'à 5000 dans les 3 premières années de sa vie. Les couches culottes contiennent des substances chimiques à risque.
Selon une étude de l'Agence de sécurité sanitaire française, des couches jetables contiennent des substances allergènes, voire cancérigènes, des parfums artificiels, des matières premières contaminées par des pesticides, du glyphosate ou encore des dioxines. L'Agence de sécurité sanitaire enjoint les industriels à proposer des produits sans danger pour les bébés. Arrêtons-nous à présent sur une loi qui divise jusque dans les rangs de la majorité. Un texte censé lutter contre les casseurs, débattu dès ce matin en commission à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi, promise par le Premier ministre après des débordements lors de manifestations des Gilets jaunes, doit durcir les sanctions contre les casseurs et les manifestations non déclarées. Mais ce texte suscite de nombreuses critiques et cela s'est encore fait sentir hier quand le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été auditionné par la commission des lois de l'Assemblée, Rosalie Lafarge.
Ça n'est pas une loi anti-gilets jaunes ni anti-manifestation, mais bien anti-casseur, rappelle d'emblée le ministre de l'Intérieur. Mais ils sont nombreux à être sceptiques, les députés. Sceptiques d'abord sur la possibilité d'installer un périmètre de sécurité autour des lieux de manifestation pour pouvoir fouiller les personnes. Ça existe déjà, glissent quelques voix au sein de la majorité. À quoi bon refaire un texte ? Plus sévèrement critiquées, les interdictions administratives de manifester prévues par cette proposition de loi, inspirées directement des interdictions de stade adressées aux hooligans, elles inquiètent la gauche, le centre et une partie de La République En Marche. Tous y voient un danger potentiel pour les libertés publiques et un article probablement anticonstitutionnel. Le ministre de l'Intérieur se défend et l'assure, il ne s'agit pas d'interdire à tout va, mais simplement de réagir plus vite contre les 100-200 personnes qui aujourd'hui cassent systématiquement. Enfin, sur la création d'un fichier de personnes interdites de manifestation, là aussi, ça grince des dents, même chez les députés En Marche. Mais Christophe Castaner promet, l'inscription sera limitée dans le temps et fera l'objet d'un contrôle parlementaire. Les seuls à se réjouir finalement, ce sont les députés Les Républicains. Normal, la proposition du gouvernement vient des sénateurs LR. Alors à droite, on le dit d'emblée, on votera le texte, sauf, précise Éric Ciotti, si les amendements de la majorité finissent par le dénaturer.
Et avant une nouvelle manifestation des Gilets jaunes samedi prochain, le ministre de l'Intérieur a promis d'équiper de caméras piétons les forces de l'ordre qui utilisent des lanceurs de balles de défense à l'origine d'une quarantaine de blessures lors de ces dernières manifestations. Ces caméras devraient être activées systématiquement en conditions normales, mais pas en cas d'agression des forces de l'ordre. Une manière de satisfaire l'opinion publique, sans froisser pour autant les policiers, estime le sociologue Laurent Mucchielli, spécialiste des questions de sécurité.
Je pense que c'est un compromis qui est fait entre, d'une part, ce que le ministre ne peut plus ignorer, à savoir la pression qu'il y a dans le débat public pour reconnaître que les flashballs et autres lanceurs de balles de caoutchouc sont des armes très dangereuses. En activant ce dispositif de caméra piéton, c'est une façon de négocier, je pense, avec les syndicats de police pour leur dire que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose puisque ce sont les policiers eux-mêmes qui décident ou pas d'activer la caméra en question. Autrement dit, ils gardent le contrôle de tout ça. La question n'est pas le lanceur de balles de caoutchouc en soi. La question, c'est le contexte dans lequel on l'utilise. Que les policiers puissent en être armés en toute une série de circonstances, c'est la circonstance qui crée le besoin et la légitimité de l'arme. C'est pas l'arme en soi. Là, en l'occurrence, on parle du maintien de l'ordre des manifestations, et ce qui est contesté par toute une série d'acteurs publics et privés, c'est l'usage qui a été fait, en particulier dans plusieurs des manifestations le samedi des Gilets jaunes, l'usage qui a été fait de ces armes, à la fois en soi, comme outil. Est-ce que pour maintenir l'ordre, on doit utiliser une arme qui peut causer des blessures graves ? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que par ailleurs, il n'y a pas eu au passage des fautes professionnelles, des fautes lourdes dans certains cas, c'est-à-dire des usages de cette arme sans respecter les règles élémentaires qui font en sorte que précisément son usage ne soit pas potentiellement trop dangereux. Et ce sont des questions de distance, ce sont des questions de partie du corps qu'on vise. Et quand on voit les blessures qui ont été occasionnées, les témoignages à la fois des manifestants et d'une vingtaine de journalistes qui ont porté plainte, quand on voit tout ceci, à l'évidence, il y a aussi un certain nombre de fautes professionnelles qui ont été commises.
Le sociologue Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, il répondait à Antoine Marette. Face aux violences qui ont émaillé surveiller les rassemblements des Gilets jaunes. Le mouvement des foulards rouges appelle, lui, à manifester dimanche, place de la République à Paris, pour réclamer le retour de l'ordre public et le respect de l'état de droit. Hier, le chef de file de La République En Marche, Stanislas Guérini, s'est dit sensible à la démarche de ce collectif, lancé fin novembre à l'initiative d'un sympathisant LAREM de Toulouse. Mais Stanislas Guérini considère que le temps des manifestations est fini, place au grand débat national. Au-delà des frontières de l'Hexagone, elle compare les Gilets jaunes français aux partisans du Brexit au Royaume-Uni. L'ancienne députée française d'extrême droite Marion Maréchal était à Oxford hier, invitée par un club de débat dans la célèbre ville universitaire. Une venue dénoncée par une centaine de manifestants, Antoine Gignot.
La neige dégouline sur les pancartes et recouvre en partie les slogans antiracistes, mais ils sont près d'une centaine dans la rue, comme Margaret, à protester contre la présence de l'extrême droite au cœur de la ville universitaire.
On ne comprend pas pourquoi on autorise ces gens à venir ici. Ce sont des fascistes. Ils se présentent comme des membres de l'élite dirigeante, mais en réalité, ils n'en font pas partie.
À l'intérieur, Marion Maréchal parle de gestation pour autrui. Elle croit savoir que 20% des jeunes issus de l'immigration veulent instaurer la charia en France. Elle compare rapidement les Brexiteurs aux Gilets jaunes. Elle peine à comprendre les questions en anglais, mais recueille tout de même des encouragements. Plusieurs étudiants applaudissent.
On n'a pas l'occasion d'entendre ces gens-là dans l'intégralité de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent.
Mais d'autres reconnaissent que la programmation de l'association Oxford Union fait de plus en plus polémique.
Cette année, il y a eu une répétition, une accélération de ce genre d'invitation. De l'extrême droite européenne et également de l'extrême droite américaine, il y avait Steve Bannon au mois de novembre dernier. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont présents pour protester.
Marion Maréchal, elle, ne s'arrête ni devant les manifestants, ni devant la presse. Comme les organisateurs, elle refuse de répondre aux questions des journalistes.
Antoine Gignot à Oxford pour France Culture. La démission gouvernementale face à l'alcool est scandaleuse. C'est l'accusation portée par des médecins dans une tribune publiée par le journal Le Monde. Ces professionnels de santé estiment que le plan de mobilisation contre les addictions adopté entre Noël et le Nouvel An ne lutte pas assez concrètement contre le fléau de l'alcoolisme, responsable de 49 000 morts par an en France. S'il n'y a pas de politique assez forte contre ces risques, c'est à cause de la pression du lobby de l'alcool, estime Michel Reynaud, professeur de psychiatrie, président du fonds Action Addiction.
Il faut comprendre que 80%, c'est-à-dire l'immense majorité des alcools achetés, sont achetés par 20% des consommateurs et que la moitié des alcools achetés sont achetés par les 8% de dépendants. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, le modèle économique de la filière alcoolière est basé sur les consommations excessives, dangereuses et sur les dépendants. Et c'est pour ça que tout ce qui pourrait être efficace comme prévention vis-à-vis de toutes les consommations excessives, et notamment le prix minimum de l'alcool ou la taxation des prêts mix à base de vin, et vis-à-vis du ciblage des jeunes, est systématiquement bloqué.
Michel Reynaud, professeur de psychiatrie, président du fonds Action Addiction, interrogé par Victoria Coussa. Le temps de ce mercredi 23 janvier, froid avec 25 départements placés en vigilance orange pour neige et verglas. Les températures sont comprises ce matin entre moins 4 et 0 degrés à l'intérieur des terres. Un peu plus doux près des côtes avec 0 à 6 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.